Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Rosalie Suc, mais aussi Margot Leridon et Bertie Bourdon. Réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meij. On poursuit notre série consacrée au sport comme arme de séduction massive. Lundi, nous avons parlé de la politique sportive des pays du Golfe, alors que le Dakar 2020 vient de s'ouvrir du côté de l'Arabie Saoudite. Mardi, hier, nous sommes intéressés au football turc et à sa place dans la politique d'Erdogan. Aujourd'hui, on va rester sur le sol français, mais pas seulement, mais on va analyser le succès de la France dans l'obtention de compétitions sportives. De l'ovalie à l'olympisme, Paris sur le podium, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
À Paris, en 2024, vous pourrez participer aux Jeux. À chaque fois que Paris a organisé les Jeux, la France a marqué l'histoire olympique. La première participation des femmes, en 1900. Le premier village olympique, en 1924. On a forcément voulu se mettre dans ces pas-là et passer d'un programme de sport audacieux à une approche des Jeux tournée vers les gens. Pour les gens. C'est ça, la vraie révolution.
L'avantage du projet Paris 2024, c'est que le futur centre aquatique sera véritablement de l'autre côté de l'autoroute du Stade de France et on aura cette proximité centre aquatique et stade olympique qui va permettre un confort pour les athlètes qui seront à moins de 5 minutes du village olympique.
On a déjà la visibilité sur 150 000 emplois directs. Ce qu'on appelle les emplois directs, c'est directement lié au JO. Sécurité, événementiel, hôtellerie, restauration, organisation. Mais donc c'est une fantastique chance pour l'emploi, pour les jeunes. On ne va pas passer à côté de la chance.
On créera de nouvelles infrastructures et je pense que le nord de Paris en a plus besoin que d'autres quartiers.
Après, je suis pas forcément pour les JO à Paris parce que enfin, je trouve que c'est une dépense d'argent pas forcément super utile. Bon, si ça crée des logements, par contre, ouais, ça devient intéressant.
Dans l'ordre, Tony Estanguet, à la tête du comité d'organisation des JO 2024 à Paris, Jean-Philippe Gatien, le directeur des sports du comité de candidature Paris 2024. On entendait également la ministre Muriel Pénicaud qui parlait de cette opportunité pour l'économie française. Et puis un témoignage d'un habitant de Saint-Denis. Après la Coupe du Monde féminine de football en 2019 ou encore le championnat d'Europe de volley masculin, la France s'apprête à organiser deux autres grands rendez-vous sportifs. La Coupe du Monde de rugby en 2023 et surtout, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour cette dernière compétition mondiale, la candidature victorieuse de la capitale française est venue rompre avec une succession d'échecs et d'espoirs déçus. En effet, l'attribution des JO de 2012 à Londres avait été un véritable électrochoc dans le petit monde de l'olympisme français. Et depuis, la France a revu sa stratégie et semble donc avoir enfin trouvé la formule gagnante. Mais ce retour en grâce est-il seulement le résultat de ses propres efforts ? Ces dernières années, scandales, polémiques sont venus émailler nombre de compétitions sportives et l'organisation des JO a été tenue en partie responsable de la ruine économique de certaines villes, que ce soit du côté de Rio ou du côté d'Athènes, tandis que les derniers championnats d'athlétisme à Doha ont posé de sérieuses questions sur la pertinence du choix d'un pays aux conditions climatiques inadaptées. Alors comment et quelles sont les raisons de ce retour en force de la France? Comment Paris a-t-il peaufiné sa stratégie et tiré les leçons de ses erreurs passées? Et faut-il vraiment s'en réjouir? Quels sont les bénéfices réel à attendre d'un point de vue politique, diplomatique, économique, sociaux, à qui va profiter ce retour de la France dans les grands événements sportifs? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Armand de Randinger. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant international dans le sport et l'olympisme. Vous avez signé plusieurs ouvrages. Le dernier en date, le Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction, 24 défis à relever. À nos côtés également, Carole Gomez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheuse en géopolitique du sport à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez signé, vous, le rugby à la conquête du monde, histoire et géopolitique de l'Ovalie. C'était en septembre 2019, cher Armand Collin, et on parlera évidemment du rugby. Je vais commencer avec vous, Carole Gomez. Si on fait un très rapide coup d'œil sur les événements sportifs déjà organisés ou à venir du côté de la France, 2016 Euro de football masculin, 2017 championnat du monde de handball, 2018 Euro féminin, 2019 Coupe du monde féminine de foot, 2023 Coupe du monde de rugby, 2024 JO de Paris, on avait déjà vu se tenir autant d'événements sportifs internationaux majeurs dans un pays, dans une si courte période?
Alors, sur cette question-là, il faut pas forcément... La France est vraiment un cas particulier puisqu'il y a vraiment une concentration extrêmement importante de ces plus grands événements sportifs, même si, de mes souvenirs, la Russie également se place dans une situation assez parallèle, même si il y avait pas forcément la période temporelle était un peu plus large puisqu'elle avait entre une dizaine, douzaine d'années, avec une Coupe du Monde masculine de football, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Sochi, les Universiades, des championnats d'escrime, de natation, etc. etc. Donc on est vraiment dans une... Par contre, on est indéniablement dans un moment fort de la diplomatie sportive française, puisque cette période, pour le moins faste, est très concentrée et se termine logiquement en 2024, même s'il y a aussi, et c'est aussi un des points qui me semble important à soulever, à penser l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire après cette période-là?
2024, ça sera évidemment l'apothéose, le méga événement Armand de Randinger. On se dit que c'est une réussite de la diplomatie sportive de la France. À quoi est-ce qu'on le doit? On le doit finalement à la claque que nous avions pris lorsqu'on a perdu les Jeux Olympiques de Londres, remporté par Londres.
Oui, on le doit. Ça a été un catalyseur. Ça a vraiment, ça a été la rupture complète. À la suite de cela, on a vraiment compris que, en fin de compte, le monde des décideurs sportifs de l'attribution des grands événements n'attendait pas de la France tout. Nous, on attend toujours des autres beaucoup plus de par le passé. Et Dieu sait qu'on a subi de multiples échecs. J'ai eu la chance de participer à une douzaine de candidatures, 10 gagnantes et 2 perdantes. Et 2 fois 2 perdantes, avec la plus belle ville du monde, Paris, en 2008 contre Pékin, en 2012 contre Londres. Et on avait le meilleur dossier technique. On était intimement persuadé qu'on avait le meilleur casting qui puisse exister. On avait perdu déjà, pour dire, 3 fois Lyon en 1968 contre Mexico. On avait perdu Lille pour 2004 contre Athènes, et on voit le résultat à Athènes. Et nous, 2008-2012, toute la stratégie paraissait merveilleuse. Non, on a perdu, bon, de très peu, on aurait gagné d'une voix ou de perdre de 4 voix, ça aurait tout changé. Hein. Non, on a perdu, et c'est entièrement de notre faute. C'est pas parce que Londres était meilleur, ou Madrid est meilleur. Nous savons faire du lobbying, nous savons communiquer, nous savons vendre... notre technicité, nous sommes un grand pays qui a toujours remarquablement bien organisé les événements sportifs, quels qu'ils soient de par le passé. Donc, on n'est pas attendu là. On est attendu sur le fait que, oui, la France, Paris a tout, la France a tout, mais apportez votre contribution au monde du sport international. Quelle est votre participation au niveau international? À quoi vous contribuez? Quel est mon intérêt de vous attribuer un quelconque événement, et surtout les Jeux Olympiques, à une ville comme Paris qui a déjà tout, et qui se présente comme avoir tout? Non. Ça, c'est la première raison, c'est qu'il y avait une sorte de prétention, il faut le reconnaître, moi j'y ai participé, donc je suis bien placé pour apprendre ma responsabilité, il y avait une sorte de prétention, on nous doit tout, Coubertin. Tout le monde s'en fout de Coubertin, il ne faut pas faire d'illusion, ça n'a aucun intérêt dans le choix. Ouais. Deuxièmement, on est les meilleurs organisateurs. Oui, c'est vrai, mais c'est le minimum. Tout pays est capable d'organiser les Jeux. Mais est-ce qu'au point de vue de contribution et d'affect, en quoi c'est intéressant pour moi? Et là, se pose le grand problème, c'est que, en général, c'est les gestionnaires du sport qui vendent, qui promeut le sport français à l'international, et on ne fait pas du tout travailler tout notre tissu diplomatique et notre tissu industriel des entreprises. Donc il y a une césure, et c'est ça la raison, c'est pourquoi on a perdu de multiples fois par le passé.
Carole Gomez, est-ce que vous êtes d'accord sur l'état de la situation et les raisons finalement de cet échec pour les JO de 2012 qui ont eu lieu à Londres et pas à Paris? Et puis ensuite, on va essayer de comprendre ensemble ce qu'on a changé depuis en termes de stratégie, puis aussi en termes de diplomatie, puisque j'ai entendu que c'était une des choses qui avait pêché. Carole Gomez.
Pour le coup, je rebondis complètement sur ce qui vient d'être dit sur la question de un peu la prétention qu'il y avait pu avoir, et notamment il y avait un certain nombre d'articles qui avaient révélé à Singapour la présence française venait un peu pour voir sa consécration et non pas pour venir faire campagne, alors qu'on sait que Tony Blair et Sébastien Coe avaient continué à rencontrer jusqu'à très peu de temps avant l'attribution finale, expliquer pourquoi Londres était la meilleure candidature, etc. Il y avait aussi, d'un point de vue, à mon sens, de la candidature, où si la candidature anglaise, enfin de Londres, était aussi pertinente, c'est qu'elle était portée et incarnée par une personne. Donc il y avait une voix qui arrivait à vraiment diffuser un message clair qui était Sébastien Coe.
C'était pas caché, nous, le message français, était pas clair.
Ben, disons que le message était peut-être un peu plus dilué et porté par différentes personnes. Le ministre des Sports, le président du CNSOFS, donc Comité National Olympique et Sportif Français, un certain nombre de parlementaires aussi qui étaient intéressés par sa question et qui, voulant apporter leur pierre à l'édifice et venir renforcer la candidature, peut-être brouiller un petit peu ce message-là.
Aujourd'hui, c'est plus clair ?
Aujourd'hui, il y avait vraiment une volonté, et ça a été aussi ça qui a été...
C'est Tony Estanguet, quoi.
C'est Tony Estanguet qui arrive à porter, qui incarne vraiment ce message. Et en fait, ce qui a vraiment changé post-2000, au moment où on a vraiment pris conscience qu'on s'était pris beaucoup trop d'échecs pour pouvoir ne pas changer la machine, c'était de dire, ok, maintenant on va vraiment incarner cette candidature, il ne va pas y avoir 25 personnes qui vont parler en notre nom, il va y avoir une tête de pont, Tony Estanguet et Bernard Lapassé, qui pendant le comité d'organisation étaient vraiment les deux voix qu'on entendait pour eux, et donc il y avait vraiment cette volonté de parler en une seule voix et de représenter les seuls intérêts de Paris 2024.
Tony Estanguet, triple champion olympique. Armand de Randinger.
Oui, j'adhère complètement à ce que vous dites, mais il y a un point qui est fondamental dans la candidature de Paris 2012, à laquelle j'ai participé, puisque j'étais patron de l'international. Donc à la limite, je suis un des co-responsables de cet échec, et qui est effectivement très frustrant. Non, c'est ce qui est arrivé très précisément. La candidature a été incarnée par des politiques. Le maire de Paris, qui a fait un travail remarquable, mais dans un contexte politique où en France, bon, le ministre des Sports n'était pas du même bord, et donc ça a joué. Les sportifs étaient mis en retrait, et puis la troisième chose, on est arrivé en conquérant à Paris, quand je dis on, j'y participe. Ouais. Il faut savoir que 3 mois avant, tous les sondages nous donnaient largement gagnants. Ouais. Et en fin de compte, on a arrêté de travailler, on a commencé à dépecer l'ours avant de l'avoir tué, si je peux dire, et on est tombé de très haut. Et parce qu'on n'a rien fait dans les 3 derniers mois.
Et donc là, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a mis les sportifs en avant. Tony Estanguet, d'une certaine manière, on a apolitisé.
Alors, il y a eu toute la différence.
Le comité, même si bien sûr, on sait bien que c'est un événement éminemment politique. Mais
on a intégré totalement en mettant un sportif à la tête, Tony Estanguet en l'occurrence. Et puis, tous les politiques ont joué le derrière. Anne Hidalgo, qui était contre, a joué le jeu complètement. Et c'est tout à son honneur.
Carole Gomez, d'un point de vue purement diplomatique, qu'est-ce qui a changé au Quai d'Orsay depuis justement cet échec de 2012?
Oh là, beaucoup de choses, puisque...
La diplomatie du sport a totalement changé.
En fait, et là aussi je parle en la mémoire de l'Iris et notamment Pascal Boniface qui avait essayé à de nombreuses reprises d'essayer d'impulser quelque chose, notamment au niveau du Quai d'Orsay, puisqu'il comprenait bien l'importance que pouvait avoir le sport d'un point de vue diplomatique. S'il y avait vraiment des résistances petit à petit, il y a vraiment eu un changement qui s'est opéré 2012, 2013, 2014 et ça s'est vraiment verbalisé avec la nomination d'un ambassadeur pour le sport en janvier 2014 et la nomination de Jean Lévy qui permet en fait de mettre un visage et de mettre en place un fin connaisseur du Quai d'Orsay, du réseau d'ambassade, du réseau diplomatique, et de lui accoler cette thématique du sport qu'il connaissait à différents égards, et donc de véritablement incarner pour le réseau de diplomates la personne référence sur ces questions-là. Et ce serait intéressant, il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été écrits sur lui, et il expliquait à quel point, si tout le monde était vraiment convaincu de l'importance que pouvait avoir le sport, la réalité des choses en ambassade était que le sport ne passait pas forcément, n'était pas vraiment pas une priorité, à la différence d'autres sujets, et qu'il fallait vraiment essayer d'impulser quelque chose. Et disons qu'il y a eu vraiment ce changement-là, le fait que cette conférence commune entre Valérie Fourneyron, ministre des Sports, et Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, avec la nomination de cet ambassadeur pour le sport, plus le CFSI, qui était le Conseil français pour le sport à l'international, permettait vraiment d'être un peu le bras armé de la France, d'un point de vue diplomatique, sur la scène sportive.
Armand de Randinger, il y a peut-être quelque chose qu'on oublie là de mettre dans le paysage, mais qu'il va falloir introduire parce que il faut pas quand même oublier que tout cela, c'est peut-être d'abord et avant tout non pas une histoire de sport, mais une histoire d'argent. Il y a quelque chose qui a changé aussi, c'est l'environnement fiscal. J'aimerais savoir précisément ce qui a changé en matière fiscale et en particulier pour les grandes instances sportives, la FIFA, l'UEFA, le CIO, parce que ça marche pour le Comité Olympique, mais en fait ça marche pour tous les autres. Qu'est-ce qui a changé très concrètement et dans quelle mesure justement ces transformations, ces évolutions ont participé de ce grand succès dont on parle aujourd'hui?
Alors, ça a changé radicalement parce que l'image qu'a la France à l'étranger c'est le rapport qu'a l'État et le Français vis-à-vis de l'argent. On a honte de ceux qui ont de l'argent, on a honte de l'argent en général. Dans le sport, c'est tout à fait le contraire. Alors, je ne vais pas revenir à Samaranch, dans les années 90, il est clair que l'argent est roi dans le mouvement sportif. Il le vit par l'argent, alors que ce soit les médias, que ce soit les sponsors, que ce soit les billetteries, l'argent est roi. Alors, il faut savoir qu'on nous attribue des événements dont les propriétaires sont des gouverneurs du sport à l'international. Au CIO, c'est le cas, à la Fédération d'athlétisme, c'est pareil, dans le football, pour prendre des grands sports, c'est tout à fait le cas. Et ces gens-là, quand ils attribuent des événements, bon, ils s'intéressent effectivement à la technicité du pays, à la gentillesse des gens qui dirigent le pays, mais ce qui les intéresse, c'est comment on va avoir un retour sur l'argent. Or, la loi française en la matière est quand même très très compliquée. Bercy n'accepte pas beaucoup le côté d'exception qui doit exister. Petite anecdote, pour une petite anecdote qui est importante, il faut savoir que pour les Jeux d'Albertville, il y avait un homme qui incarnait les Jeux, enfin il y en avait deux avec Michel Barnier, c'était Jean Claude Killy, et je me souviens quand je m'en occupais auprès de Jean Claude Killy, nous avons retrouvé à l'époque Charras, ministre du budget, pour lui dire, écoutez, on a un problème majeur au point de vue fiscal, on ne va pas taxer nos employés, on veut revoir complètement le dispositif, et d'un trait de plume, il a dit, ok, ça marche. Mais à Bercy, il refusait qu'il y ait des exceptions pour tout événement sportif.
Et là, on a accepté.
Et là, on a accepté, véritablement, et ça a été dur. Et là, c'est tout à l'honneur, j'allais dire, de la France et de tout le travail qui a été fait par le monde du sport pour imposer une loi d'exception et qui est une véritable loi d'exception et qui fait plaisir aux décideurs.
Tout est à l'honneur, ça c'est oui. Un jugement de valeur, c'est oui. Ce que vous considérez, tout le monde n'est pas d'accord pour dire précisément que les exemptions fiscales dont vont pouvoir jouir demain les justement ces grandes instances du sport et même leurs sponsors qui sont accolés. Que sont Coca-Cola, Samsung, Toyota pour ne pas les pour ne pas les citer, Airbnb, etc. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est une bonne chose que de leur accorder ces exemptions fiscales. Par ailleurs, il y a des exemptions fiscales, mais il y a d'autres choses. Il y a des règles qui normalement s'appliquent, qui pour eux ne vont pas s'appliquer. Je pense à la question de la publicité, par exemple.
Oui,
autour des sites.
Il y a la question de la publicité, ouais. Effectivement, qui est en fait le cahier des charges d'un certain nombre de fédérations internationales, du comité international olympique exclut de certaines marques. Il y a notamment un exemple qui a particulièrement été connu, c'était en 2014 lors de la Coupe du Monde masculine de football au Brésil où l'alcool est interdit dans les stades. Le problème étant qu'un des principaux sponsors de la FIFA est une marque américaine de bière dont je tairai le nom et qui a eu une autorisation exceptionnelle pour venir d'être vendu dans les stades.
Et là, par exemple, et je vous laisse poursuivre, mais par exemple, là, pour les JO 2024, si je ne m'abuse, les sites olympiques, enfin, quand il y a des monuments historiques à côté de sites olympiques, normalement, vous n'avez pas le droit d'afficher de la publicité sur ces monuments historiques. Là, les sponsors auront le droit exceptionnellement.
Alors, justement, ces montres, et là, effectivement, et vous avez raison de me reprendre sur l'aspect du jugement de valeur que je porte, ça peut être considéré comme un véritable scandale, cet élément-là.
Ça va l'être, de toute évidence, un
support publicitaire.
Ça sera un sujet.
Bon, c'est un sujet, mais on va beaucoup plus loin. Les règles d'expropriation sont totalement différentes. Il faut exproprier pour pouvoir installer des infrastructures, donc on ne va pas attendre 7-8 ans. Les règles de... au-delà d'expropriation, il y a aussi les appels d'offres. Bah, si jamais il faut respecter la règle des appels d'offres publics classiques, l'échéance ne sera pas respectée au niveau des jeux. Donc il y a toute une série de règles qui...
Donc c'est un moment de grande dérégulation.
C'est un moment de grande dérégulation pour être clair, pour que les bénéfices qui sont partagés, si on peut dire, dans la forme de contrat léonin, entre les propriétaires de l'événement et ceux qui organisent, soit le plus intéressant possible, que ce soit pour le CIO, que ce soit les fédérations internationales, et ainsi de suite. Donc c'est une grande phase de dérégulation avec tous les problèmes que ça pose.
Alors justement, si on regarde un peu les coûts et les bénéfices, Carole Gomez, on va regarder ce qu'il en est pour les JO, mais moi j'ai trouvé un chiffre qui a été avancé par la Cour des comptes de 2017 sur l'Euro 2016. Mmh. Évidemment, c'est pas le même événement, mais ça dit un peu le rapport de force justement entre ces instances sportives et l'État organisateur. Les bénéfices engrangés pour la France, pour l'Euro 2016, on parle de 162 millions d'euros. Pour l'UEFA, on parle de 840 millions d'euros. Donc, si je calcule bien, on est à peu près dans un rapport de 1 à 5, même un peu plus. C'est ça, en gros, pour gagner, il faut accepter que le rapport de force économique, il est celui-ci, un cinquième pour l'État organisateur, en gros, hein, et le reste pour les instances sportives.
C'est là toute la question de l'importance prise par les organisations sportives internationales qui deviennent plus importantes, plus puissantes qu'un certain nombre d'États. Et donc, il y avait, notamment, on a réalisé avec Pim Verschuren un exemplaire de la revue internationale des stratégies qui posait justement cette question-là, en se disant que potentiellement l'UEFA, la FIFA, le CIO ou toute autre fédération internationale possédait plus de pouvoir, puissance, avait une puissance financière, une force de frappe extrêmement forte. Et qui potentiellement mettait en position de faiblesse un certain nombre d'États. Au-delà de cette question-là, ça pose aussi la question de la transparence et d'un certain nombre de règles qui doivent s'y appliquer. Et là, j'aurais tendance à dire que les choses sont en train d'évoluer, puisque ce qui était permis, ce qui existait il y a de ça un certain nombre d'années, aujourd'hui ne l'est plus du tout. Et
ce genre. Pensez à quoi ?
Ben, par exemple, le fait que l'exemple que vous preniez sur les campagnes d'affichage, de mémoire, j'avais jamais vu autant d'interrogations, de débats sur ces questions-là au cours des précédentes éditions, qu'il s'agisse de Londres, qu'il s'agisse de Athènes, ou même en 2016, même s'il y avait beaucoup d'autres sujets sur le tapis sur Rio. Mais il y avait vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un mouvement une vraie volonté de la part des États d'essayer de reprendre la main sur quelque chose qui était en train de leur échapper, avec cette puissance grandissante des fédérations et des organes sportifs. Et aujourd'hui, si ce rapport est clairement en défaveur des États, il me semble qu'il y a une volonté de rééquilibrage et de venir rapporter un peu plus de régulation et d'encadrement à un champ qui est resté pendant très longtemps dans le domaine à part du sport, et donc avec toujours cette petite musique de mais vous savez c'est du sport, donc on est un peu à part, et puis il y a aussi l'indépendance et l'apolitisme du sport.
Armand de Rendinger, vous êtes d'accord sur peut-être ce rééquilibrage dans le rapport de force entre les États, l'État organisateur et les instances sportives internationales?
Ah bah c'est absolument indispensable, parce que ces instances...
Indispensable, mais il a lieu?
Non, mais il a lieu parce que les instances internationales se rendent compte aujourd'hui qu'il y a un déficit de candidature à l'organisation de tout événement. Il faut bien comprendre que le rapport de A à 5, mais vous signez des contrats léonins. Lorsque vous obtenez un événement, c'est un vrai contrat léonin que vous signez. Moi, je vois très bien, lorsqu'elle a signé pour Albertville, puis je vois à chaque fois toutes les autres candidatures qui ont obtenu l'organisation des Jeux, c'est une signature où c'est des rapports, c'est de 1 à 3, de 1 à 4 et 1 à 5, en question des droits de télévision, parce qu'il faut savoir qu'il y a derrière, il y a toutes les puissances américaines derrière qui veulent récupérer un certain nombre de sommes. Donc, ils sont obligés, puisque... C'était le contrat léonin, où en clair, les bénéfices sont largement pour nous, propriétaires des événements, et les déficits sont à 100% pour vous. Alors à partir de là, ça devient compliqué. Donc de plus en plus de villes ou de pays refusaient d'être candidats si on continue avec ces contrats léonins, premièrement. Et deuxièmement, et là c'est un élément très important que vous avez noté, c'est que maintenant les organisateurs se rendent compte, enfin les propriétaires de ces événements se rendent compte, si on n'intègre pas l'événement sportif dans la politique territoriale, la politique municipale, la politique financière, la politique économique du pays, ça ne le fera pas.
On va y venir sur cette question-là, sur cette articulation entre les deux avec la politique municipale. Mais si on reste un peu sur les questions économiques encore, Carole Gomez, regardons ce qu'il en est du côté des JO 2024. Vous aviez vu évidemment passer... Je crois que c'était en septembre dernier, ce collectif d'universitaires qui s'était élevé contre l'organisation des JO en disant « mais on nous explique que c'est bon économiquement, on nous explique carrément que c'est bon écologiquement aussi, mais évidemment il n'en est rien, ça sera coûteux pour tout le monde et c'est une catastrophe, il ne faut pas le faire ». Est-ce qu'on peut avoir un peu là une idée aujourd'hui de ce que devraient coûter les JO? Alors, on nous a annoncé, je crois, 6,7 milliards, mais on sait très bien que ça déborde toujours un petit peu. Alors, combien ça va nous coûter? Combien ça va nous rapporter, Carole Gomez?
Oh là là, c'est une question que vous me posez, là.
Essayons quelques éléments.
Alors, en fait, si on analyse le budget de Paris 2024, vous l'avez cité, il est 6,7 milliards, même s'il a été de mémoire un tout petit peu réélevé.
Il est passé de 6,3 à 6,8.
C'est ça. Donc il est à ce moment 6,8 en début d'année 2020. si on, en fait on essaye de dézoomer et on s'interroge un peu sur les différents budgets qui ont pu qui avaient lieu au cours des 20 dernières années, les principales sources de dépassement ont été dues à deux choses. D'une part, la construction des infrastructures qui, prenant du retard, entraîne un surcoût considérable, tout simplement parce qu'il faut avoir des pistes de ski ou des hôtels de façon suffisante pour pouvoir accueillir les personnes. Et d'autre part, la question de la sécurité. Sur le premier point concernant Paris 2024, les questions des infrastructures, selon le budget, selon le projet qui est développé, ne devraient pas connaître des dépassements, compte tenu du fait qu'il y a déjà un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, d'infrastructures déjà en place et qui vont pas nécessiter de construction ex nihilo. Il va y avoir des ajustements, il va y avoir des rénovations, il va y avoir simplement deux bâtiments qui vont être construits. Donc on peut estimer raisonnablement qu'il ne va pas y avoir de dépassement à ce niveau-là. En revanche, et c'est aussi sur ça qu'il va falloir être vigilant, c'est la question de la sécurité, puisqu'on sait que c'est ce budget-là qui, en général, dérape, et notamment sur, si on reprend l'exemple de Londres 2012, c'était notamment ce budget-là qui avait considérablement fait enfler la facture pour les Londoniens en 2012.
D'autant qu'il y avait eu des attentats quelques mois avant.
Alors, le lendemain de l'annonce officielle en juillet 2005. Ouais. Et là, on s'était rendu compte que, ah oui, effectivement, la question sécuritaire est importante. Et c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui que cette attribution est prévue 7 ans auparavant. Qui est extrêmement pratique puisque ça permet vraiment d'impulser quelque chose de nouveau au sein du pays, mais qui est quand même très compliqué dans le point de vue géopolitique.
Quelle situation sécuritaire
on
n'a
aucune idée. Et donc ça permet aussi de c'est un vrai poste de dépense sur lequel il va falloir être très vigilant.
Armand de Randinger, juste une chose, Carole Gomez nous dit bon, a priori c'est un budget qui devrait être à peu près contenu. C'est ce que nous avaient dit aussi les Japonais. Ils avaient dit 5 milliards et là il y a un audit assez récent. Alors je sais plus si c'est du Sénat ou de la Chambre. Je sais plus, mais il y a un audit très récent qui nous dit en fait on est plus autour de 25 milliards. Sachant que du côté du comité d'organisation de Paris, on dit bah Tokyo c'est vraiment un modèle. Est-ce que le modèle aussi budgétaire va glisser comme ça a glissé du côté du Japon?
Alors, on est dans une situation tout à fait particulière. Le Japon a été...
C'est un audit du gouvernement,
oui, pardon. Oui, du gouvernement. Tokyo, pour 2020, est la dernière course pour 2020 Jeux Olympiques. On est sur l'ancien modèle, si je peux dire, qui consistait à sous-évaluer complètement le budget des Jeux, 4 milliards. On est arrivé un an après à 29 milliards. On est redescendu à 13 et aujourd'hui, on est à 23 pour Tokyo. Oui. Vous vous rendez compte? 4 fois. Londres, 4 milliards, 16 milliards à l'arrivée. On sous-évaluait complètement. Et ça, délibérément, pour obtenir l'organisation des Jeux. Maintenant, c'est totalement terminé. Le CIO est dans l'obligation de travailler main dans la main avec le comité d'organisation, en l'occurrence Paris pour 24 et Los Angeles pour 2028, pour contraindre le budget. Parce que si Paris ne respecte pas le budget de 6,8, c'est terminé pour que des villes, quelles qu'elles soient, après Tokyo, après l'hérésie financière de Tokyo, pour qu'une ville, quelle qu'elle soit traditionnelle, puisse organiser un événement aussi important que les Jeux Olympiques. Donc Paris est obligé...
C'est aussi un test pour l'avenir des JO.
Absolument. Toutes les villes européennes... Là, c'est pas un scoop, mais bon, l'Espagne se tâte beaucoup pour 2032 à l'heure actuelle. Bon, je suis un peu le dossier de près. Il est clair que Paris a intérêt à être dans les clous complètement. Pour notre prestige, bien sûr. Bon, donc il y a une certaine obligation, une certaine contrainte. Deuxièmement, il faut reconnaître que le budget qui a été correctement élaboré et sincère. Il ne l'est pas sur la sécurité, parce que 100 millions ou 200 millions ont été prévus, c'est dérisoire, mais mettons ce budget à part. Il est insincère sur le coût des fonctionnaires et tout ça qui sont affectés. Bon, c'est important, mais on doit pouvoir tenir dans les 6 milliards 8 parce qu'on n'a pas d'infrastructure majeure à construire. Ce qui est plus inquiétant, c'est l'effet JO, parce que pour la population, les Jeux, c'est un coût. Or, pour moi, les Jeux, bon, c'est intéressant dans la mesure où c'est un investissement, mais il faut que cet investissement rapporte. Or, on investit actuellement dans la fête, qui dure 16 jours, pour 6,8 milliards. Mais quel est l'effet JO? La promesse qui était d'avoir plus de sport à l'école, d'avoir des éléments durables, de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder aux infrastructures, de repenser complètement la transport, et avec les exigences municipales qui existent, par exemple, notamment en matière d'environnement, je vois mal qu'on aura ce défi JO. Alors, si d'un côté la population est triste de savoir qu'on a eu une belle fête et on l'organisera de merveilleusement bien, et si possible elle va rester dans les clous, un coût de sécurité élevé, mais aucun effet JO, ce sera la vallée du désespoir derrière, ce que je ne souhaite pas.
Carole Gomez.
Ouais, deux éléments pour aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, Paris 2024 sera la première Olympiade de la nouvelle ère, puisqu'il faut en fait avoir en tête qu'en décembre 2014, suite aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Sochi, qui ont été là aussi accompagnés d'un certain nombre de dérapages budgétaires, sources officielles.
39 milliards.
Une fourchette entre 39 et 45 milliards.
De dollars,
en sachant que c'est une source officielle qui l'a
donnée.
Donc, ce qui vous laisse à peu près une idée
de
ce qui n'est pas de l'officieux. Bref, tout ça pour dire que en décembre 2014, conscient de cette menace qui pèse pour le CIO, le CIO a publié un document assez important qui s'appelle l'agenda 2020. Et qui a pour objectif de rompre un peu avec cette malédiction du toujours plus d'infrastructures, avec ces éléphants blancs qui sont des images absolument terrible pour le CIO, qui est complètement contre-productif et qui en fait s'est traduit très concrètement dans les faits avec des campagnes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2022 où il y a eu pas moins de 5 ou 6
candidatures, deux à l'arrivée.
Voilà, avec un certain nombre de candidatures avortées suite à des référendums, suite à des décisions politiques, et donc il y a vraiment cette pénurie. Et donc se pose la question pour le CIO de se dire, s'il n'y a plus de villes candidates pour organiser ces Jeux, c'est tout le modèle économique qui s'effondre. Et donc, il y a une vraie nécessité de repenser et de ne plus jouer à ce petit jeu-là de quel va être le budget le plus bas pour pouvoir l'organiser.
Armand de Redinger, vous évoquiez tout à l'heure la question de la politique municipale. Quel enjeu là pour Paris en particulier, ce qu'on nous explique aujourd'hui, le récit qu'on nous propose, c'est l'idée que finalement les Jeux Olympiques, c'est une formidable opportunité pour transformer justement la ville et pour accompagner toutes les transformations qui sont nécessaires en termes de transport, en termes d'inclusion. Il y a un certain nombre de quartiers périphériques autour de Paris qu'il faut ramener, rattacher au centre, je pense en particulier au nord. Est-ce que vraiment les Jeux Olympiques de 2024, ça va être une opportunité justement pour accélérer la politique municipale, ou faut quand même pas rêver?
C'est le souhait de la maire.
J'entends bien, ça j'entends actuelle. Bien.
Non, c'est un souhait et c'est une ambition qui est, personnellement, et si je regarde le phénomène olympique par rapport à toutes les villes qui ont organisé les Jeux, je trouve que l'ambition est généreuse et tout à fait logique. Maintenant, est-ce qu'elle est faisable dans un délai si court, avec des Parisiens qui ont quelques difficultés à circuler, c'est le moins qu'on puisse dire, en dehors des grèves, si je peux dire. Il y a quand même beaucoup de travaux, même s'il n'y a pas d'infrastructure. Et donc, il y a un risque d'amalgame colossal entre inconvénients, puis refus de la politique municipale ou pas, et les Jeux. Et c'est ça qui est l'handicap majeur et qu'on n'a pas encore surmonté. Et donc, l'ambition est là, la promesse est là. Est-ce qu'elle va être réussie? Ça me paraît particulièrement compliqué.
Carole Gomez, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a des fois où ça marche bien.
Oui.
Barcelone, qui est vraiment le modèle.
Barcelone, Sydney. C'est les deux seuls.
Et il y a d'autres fois où ça marche beaucoup moins bien. On a parlé de Rio, on a parlé d'Athènes. Il y a des cas où ça marche très très mal. Pour Paris, comment vous sentez les choses?
Alors, disons que le projet est ô combien ambitieux, et c'est aussi pour ça qu'il y a une division qui s'est créée à Paris 2024, qui est la division héritage, qui a justement intérêt à travailler aujourd'hui sur des programmes qui devront perdurer après ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Par contre, on est d'accord que c'est quelque chose qui est extrêmement positif, extrêmement ambitieux, mais il y a une vraie difficulté, c'est d'arriver à impulser un mouvement profond qui perdure après 2024. Et ça, donc, ça pose c'est un travail de tous les jours, quotidien, et on sait à quel point les Français peuvent être un peu parfois réticents à faire évoluer leur regard sur un certain nombre de choses, et notamment sur le sport. Tout le monde est fan de sport, mais quand on commence à vouloir faire du sport l'alpha et l'oméga d'un certain nombre de politiques, là ça pose un certain nombre de résistances parce qu'on considère qu'il y a des choses plus importantes, etc. Mmh. Et le fait même, il y a un exemple tout simple qui est la semaine olympique et paralympique, notamment à l'école, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que par le biais du sport, on peut arriver à faire passer un certain nombre de messages à tous les niveaux, niveau sociétal, niveau politique, vie dans la citoyenneté, et même d'autres éléments. Et on voit à quel point aujourd'hui la place du sport est sans cesse remise en cause, disputée, etc. Et donc c'est aussi quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et à ce sens-là, Paris 2024, parfois, et tout au comité d'organisation, se trouve un peu seul dans ce combat-là qu'il doit mener. Puisque l'objectif quand même c'est certes d'accueillir pendant 15 jours Jeux Olympiques, 15 jours Jeux Paralympiques, mais c'est surtout qu'il y ait un vrai message qui perdure derrière.
Puis c'est... Dézoomons peut-être un peu, si vous le permettez, avant d'accueillir Anton Rouget, qui est avec nous par téléphone. On va le retrouver dans quelques instants. Mais si on revient sur les instances internationales, Armand de Rendinger, il y a... plusieurs scandales, disons, qui ont éclaté autour d'événements organisés par les pays du Golfe. On a parlé beaucoup de diplomatie des pays du Golfe lundi. Le mondial au Qatar en 2022, avec des ouvriers exploités sur des chantiers. On a parlé des mondiaux de l'athlétisme organisés à Doha, où les tribunes étaient désertées, les températures absolument intenables, sans parler évidemment des soupçons de corruption et de dopage. La corruption, on va notamment en parler dans un instant. Mais le lobbying, de toute façon, a été tel qu'ils sont quand même parvenus à rafler tout un tas d'événements de premier plan. Est-ce que, du côté des instances sportives, on a tiré les leçons de tout cela ?
Non.
Non, c'est parfaitement clair.
Je veux dire les choses, on n'a pas tiré les leçons, et je reboucle ce que disait Carole tout à l'heure, et je vais revenir à votre question plus directement. Mmh. Il est clair qu'aujourd'hui, on pâtit à l'heure actuelle au problème de l'image du sport en général. Le sport, la gouvernance du sport, avec tous les scandales que vous avez cités, où l'athlète n'est plus au milieu du dispositif, où c'est l'argent, et le développement du sport par l'intermédiaire de l'argent. Alors il y a des pays qui ont sauté sur l'occasion, le Proche-Orient, l'Arabie Saoudite d'à côté, le Qatar par le passé, où ils consacrent plus de 4% de leur budget au sport, parce que ça fait partie du soft power pour se développer, et ils le réussissent très très bien. Ben ça plaît aux institutions internationales. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est que si ça plaît aux institutions internationales, c'est pas forcément pour cela que ça plaît à la population. Et là, c'est un gros débat avec nous, les scandales qu'on existe aujourd'hui. Je vois mal comment on peut mobiliser derrière lorsque de plus en plus les scandales apparaissent. Donc, on va en parler. Et ça, c'est un problème majeur. Alors, d'un côté, les institutions internationales sont ravies de savoir qu'il y a des pays nouveaux, émergents, qui intègrent complètement la dimension sport dans leur développement. Ce sont des cash-machines en soi, quand même, ils en profitent. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que pense la population ?
Vous parlez de cash machine, Carole Gomez, et puis ensuite, on accueille Anton Rouget. Il y a un autre pays qui a des moyens colossaux, c'est la Chine. Oui. Est-ce qu'il y a un risque, finalement, qu'il se passe avec la Chine ce qui s'est passé avec les pays du Golfe ?
À quel niveau ?
Au niveau, de dérapages, de scandales et autres problèmes de corruption qu'on a connus autour d'organisations d'événements sportifs dans le golf. Est-ce qu'il pourrait se passer demain ? On sait que la Chine a de très grandes ambitions, et notamment en matière sportive. Il y a, par exemple, y compris d'ailleurs dans des sports où elle n'est pas forcément aujourd'hui très bien placée. Je pense par exemple au football. Il y a un plan de Xi Jinping très clair qui dit à l'horizon 2050, non seulement on va l'organiser, mais en plus on va la gagner. Est-ce qu'il y a un risque ?
Alors, pour le coup, le risque existe toujours, même si, de mémoire, j'avais pas vu de soupçons de corruption sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2008. Mais je peux me tromper. Mais donc, du coup, à ce niveau-là, et c'est quand même suffisamment rare pour le noter, il n'y a pas de procédure en cours concernant cet effet-là. En revanche, il y a une multiplication de sujets sur lesquels la Chine intervient, et vous l'avez cité, notamment le football, avec des investissements extrêmement important dans le championnat pour faire venir des joueurs, mais également dans un certain nombre d'autres événements. On peut penser à l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2022 à Pékin.
En revanche, des problèmes de corruption, en tout cas des soupçons de corruption, il y en a là pour les JO de Tokyo par exemple.
La société de conseil nécessaire à la collecte d'informations et à notre stratégie de candidature est bien celle qui a été mentionnée. Cependant, nous avons été informés que le comité de candidature de Tokyo ne pouvait pas avoir été au courant du lien entre cette société et la Mindiac.
Voilà, il se trouve que Paris suspecte des versements dans l'attribution des Jeux de Tokyo. Et on entendait là à l'instant le ministre des Sports japonais, Hiroshi Ase, qui affirmait en 2016 qu'il s'agissait de rémunération légitime d'un consultant. C'est ce qu'on va voir, puisque précisément la Mindiac est aujourd'hui au cœur d'un procès qui aurait dû s'ouvrir en début de semaine. Je trouve qu'il a été repoussé au mois de juin, mais on va en parler dans un instant avec vous. Anton Rouget, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez co-réalisé une grande enquête de Mediapart sur la corruption dans des événements sportifs divers et variés. Championnat du monde d'athlétisme de Moscou, championnat du monde d'athlétisme de Pékin, JO de Rio, JO de Pékin, beaucoup d'autres choses autour des candidatures du Qatar. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de ratisser aussi large?
Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui on est face à un soupçon quasi généralisé sur de corruption sur l'attribution, les votes d'attribution de différentes compétitions sportives. C'est aujourd'hui les avancées judiciaires, notamment issues d'une large enquête du parquet national financier, qui permettent aujourd'hui de documenter ce soupçon. C'est-à-dire qu'on a longtemps présumé, notamment au regard des intérêts politiques et économiques absolument considérables autour de l'organisation de certains événements, qu'il pouvait y avoir des malversations. Mais aujourd'hui, notamment l'enquête du parquet national financier sur la MINDIAC, permet clairement de documenter ces soupçons. Vous avez parlé notamment de la candidature de Tokyo pour 2020, et c'est vrai que ce volet-là aujourd'hui laisse apparaître à la fois des possibles malversations avec quelque chose qui est de l'ordre du quasi établi, parce qu'on a des notes, parce qu'on sait que il s'agissait de sécuriser non seulement le vote de la MINDIAC qui est...
qu'est-ce qu'il y a précisément sur la MINDIAC, qui est donc l'ancien tout-puissant président de la Fédération internationale de l'athlétisme? Qu'est-ce qu'on sait? Vous avez enquêté sur ce sujet?
Ouais, donc il est ancien président de la MINDIAC et l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015. C'est aussi un personnage, un ancien homme politique sénégalais, ancien vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise, qui est un personnage tout puissant dans le sport mondial. Il est membre du CIO et il est extrêmement influent, notamment sur le paysage olympique, notamment en Afrique. Donc la MINDIAC, quand il vote, il ne se représente pas tout seul. Et d'ailleurs, c'est ce qui est extrêmement intéressant à la fois pour le vote d'attribution des Jeux Olympiques de Tokyo, mais aussi ceux de Rio, c'est que on voit qu'il y a eu de la part des candidats brésiliens et japonais l'intention de sécuriser, c'est un euphémisme, le vote de la MINDIAC, mais aussi des votants sur lesquels la MINDIAC pouvait avoir une influence. Comment se matérialise cette influence? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a eu des malversations entre la MINDIAC ou ses proches et d'autres votants? C'est actuellement l'objet des investigations, mais
sur ce point-là, il y a des éléments, visiblement. Alors, il faut toujours parler au conditionnel, mais il y aurait eu un transfert d'argent.
Aujourd'hui, il y a des éléments qui prouvent que le fils de la MINDIAC, qui est également le conseiller marketing de la Fédération internationale d'athlétisme, tout ça se passe en famille, a reçu notamment sur des comptes d'une société basée à Singapour, qui est dirigée par un prête-nom, mais qui est contrôlée par le fils de la MINDIAC. Et donc cette société, de manière concomitante, c'est-à-dire au moment où les membres du comité international olympique devaient se prononcer sur le choix de Rio puis celui de Tokyo, a reçu d'importantes sommes d'argent. On parle de plusieurs millions d'euros. En l'occurrence, pour Tokyo, c'est 2,3 millions de dollars qui ont été versés sur les comptes de cette société pendant la phase de candidature, à quelques jours du vote. Et il y a aujourd'hui des éléments matériels, notamment des échanges mail, qui montrent que l'intention du comité international olympique japonais, du comité de candidature japonais, était de verrouiller le vote de la MINDIAC et surtout d'aller à la pêche à d'autres votants. Dans le cas de Rio, on a depuis cet été les aveux de l'ancien gouverneur de Rio de Janeiro, parce qu'il y a évidemment une imbrication politique dans ces stratégies de candidature. Et donc l'ancien gouverneur de Rio de Janeiro a avoué qu'il avait voulu, ou que le virement à destination du FISIAC visait à obtenir non seulement le vote de la MINDIAC, mais également de 6 à 8 votants en faveur de la candidature de Rio.
Antoine Rougier, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau dans tout cela? La corruption autour de grands événements sportifs comme ça, c'est quasiment la tradition. Est-ce que là, il semble qu'il y a quelque chose quand même de nouveau?
Il y a une forme de relativisme, y compris quand on a publié nos différentes enquêtes. Donc c'était à la veille de l'ouverture du procès de la MINDIAC. Donc dimanche, on a publié ces articles. Et il y a une forme de réception du public qui dit vous découvrez la lune. Merci de nous dire qu'il y a des soupçons de corruption derrière votre attribution. Sauf que aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'on a des éléments. C'est-à-dire que longtemps, même sur les questions de dopage, on a dit que certaines institutions, certaines fédérations internationales étaient gangrénées par la corruption et que c'est pour ça que certains athlètes étaient blanchis ou que c'est pour ça que certaines compétitions étaient attribuées à telle ou telle nation. Aujourd'hui, on commence à avoir les preuves de la triche et la manière dont ça s'organise de manière industrielle et institutionnelle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que au sein du Comité international olympique ou de la Fédération internationale d'athlétisme, l'intégrité était l'exception.
L'intégrité quoi?
L'intégrité je plaisante. L'exception.
Je plaisante, Antoine Rouget. Est-ce que précisément, Armand de Rendinger, vous restez avec nous, hein, je voudrais faire réagir nos invités, Armand de Rendinger et Carole Gomez, est-ce que justement l'intégrité, on commence à apprendre ce que ça veut dire du côté du CIO? Est-ce qu'on tire les leçons de tout ça ou on n'y est vraiment pas encore?
Ah, oui, je crois que le vocabulaire intégrité a son sens maintenant, ça commence, mais il y a un grand chemin à faire pour d'une part, d'abord avouer, parce qu'il y a des preuves, comme le dit très justement Anton, il y a des preuves dans la matière, en ce qui concerne autour de Lamine Diack, c'est très clair qu'avant on n'avait pas de preuves, c'était des rumeurs et des rumeurs. Maintenant, non, c'est clair. Mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'on parle de Lamine Diack en ce qui concerne l'attribution des Jeux de Rio et des Jeux de Tokyo, où là il y a des éléments tangibles maintenant, mais on parle aussi du rôle de Lamine Diack vis-à-vis de la Russie en ce qui concerne le dopage. Et quand vous regardez...
Oui, il aurait protégé des athlètes russes pour qu'ils puissent participer aux JO de Londres.
Participer aux JO de Londres et puis à d'autres épreuves. Et du coup, il y a tout un conflit actuellement au sein de la Fédération internationale de l'athlétisme entre Sébastien Coe, le nouveau président, qui dit, lui, il veut laver le plus blanc possible. Bon, c'est une chose. Et puis Lamine Diack, qui représente le passé. Non, ce qui est important, il y a une prise de conscience, mais il n'y a pas une prise de conscience au niveau de la gouvernance. Quand vous voyez que, pratiquement, il y a une sorte de consanguinité en ce qui concerne les responsables, entre le TAS, le tribunal d'arbitrage de sport, l'Agence mondiale antidopage, et le CIO, ainsi de suite, ça pose un problème. Donc, il y a une prise de conscience du terme intégrité, mais est-ce qu'on prend toutes les mesures qu'il faut, c'est autre chose.
On parlera justement de cette affaire de dopage avec la Russie qui est en première ligne, ça sera demain. Carole Gomez.
Ouais, il y a trois éléments qui me paraissent assez intéressants et notamment grâce qui ressortent particulièrement avec les enquêtes de Mediapart. D'une part, c'est la temporalité. On apprenait au cours des derniers scandales qui avaient éclaté, c'était des scandales qui éclataient sur l'attribution de d'épreuves qui dataient de plusieurs années voire dizaines d'années. Là, on est vraiment on s'inscrit vraiment dans la temporalité d'aujourd'hui. On parle de Rio, on parle de Tokyo, donc il y a vraiment ce lien avec le quotidien. Deuxième élément, c'est la complexité des processus qui sont mis en place et donc la nécessaire obligation de la part de ces journalistes d'investigation de se remonter les manches et d'arriver à remonter la pelote, même si sur la question de Lamine Diack, c'est quand vous tirez sur un fil, il y a plusieurs pelotes qui viennent en même temps, donc c'est une vraie complexité à arriver à comprendre dans l'intégralité de cette affaire. Et le dernier élément qui me semble aussi important, c'est d'une part le suivi judiciaire, notamment avec le parquet national financier qui se saisit de ces éléments-là et qui permet aussi de venir apporter une justice sur ces éléments, mais également. Alors certes, des reproches ont été faits à Mediapart, mais bon, c'est aussi très très humain de tout le temps faire des reproches sur ces sujets ô combien essentiels.
Ils ont l'habitude à Mediapart.
Oui, c'est ça, malheureusement. Mais il y a aussi la mobilisation d'une société civile, et on voit de plus en plus d'organisations, d'associations se mobiliser, qui se rendent compte que potentiellement le sport est en danger, et que si on ne met pas si on nettoie pas les écuries d'Augias, c'est la mort du sport en tant que tel.
Anton Rouget, il y a une question que je voulais vous poser parce que par exemple là, Lamine Diack, c'est une affaire qui concerne les Jeux Olympiques de Tokyo. Comment se fait-il que c'est la justice française qui est au cœur de cette enquête-là? Pourquoi c'est pas la justice nippone? Lamine Diack, à ce que je sais, n'a pas quitté le Japon dans une malle pour venir en France et justement se faire juger par des juges français. Comment se fait-il que ce soit la France là qui s'occupe de tout ça?
Il n'a effectivement pas encore pris la décision de quitter le pays dans une malle, mais en fait le point de départ de tout ça, et c'est extrêmement intéressant, c'est que c'est le parquet national financier qui est à l'origine de toutes ces découvertes, qui travaille maintenant en collaboration avec notamment la justice brésilienne, suisse ou américaine sur d'autres volets, et parce qu'on voit que c'est des enquêtes internationales
avec et nippon aussi
des choses exactement
la
justice nippone de collaboration, mais c'est un peu plus compliqué avec le Japon ou le Sénégal par exemple. Mais pourquoi le parquet national financier s'en est saisi au départ? C'est simplement parce qu'il y a une partie des pots de vin présumés qui auraient été blanchis en France. En fait, il y a énormément de flux, notamment dans des boutiques de luxe à Paris. On se rend compte que le fils de la Mindiac, donc Papa Massatadia, qui était très dépensier sur les Champs-Élysées dans plusieurs boutiques de luxe, il a acheté des dizaines et des dizaines de montres, soit pour lui-même, soit pour les offrir, notamment en marge de votes d'attribution. Et donc, ces flux-là ont permis à la justice française de se saisir du dossier et ensuite de travailler de manière internationale
et aujourd'hui
sur l'ensemble de ces flux.
Et aujourd'hui, le fils Diac est reparti du côté du Sénégal, hein, donc il ne sera pas présent au procès. Armand de Rondinger.
Oui, il faut être Carole parlait de nettoyer les écuries d'Augias. Bon, ok, c'est un terme dur, mais ça peut se comprendre. Non, quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que maintenant, la justice du droit commun rentre dans l'écosystème qu'est le sport. Avant, c'était comme dans l'Église, si je peux vous dire. Il y avait son propre droit qui n'était pas canon, qui était le droit du sport. Maintenant, non, Scotland Yard, FBI, le parquet national français, financier, interviennent et donc c'est internationalisé complètement. Donc, il faut, entre guillemets, être optimiste que peut-être ça va s'accélérer beaucoup, sur le fait que le sport retrouve une certaine dignité, pour ne pas dire une grande intégrité.
Et évidemment, Carole Gomez, comme vous nous avez dit que Paris 2024, ça sera un test sur plein de niveaux, économiques, politiques, sur le plan de la corruption, aucun problème. Paris 2024, il n'y a aucune raison d'avoir une quelconque inquiétude.
On nous a donné les jeux.
Oui, c'est ça. Enfin, la campagne qui a été menée en 2013 à 2019, c'est ça. Elle était assez claire et donc au final, il y avait eu cette finale entre Los Angeles et Paris. Donc on peut pas véritablement dire qu'il y ait un contexte favorable pour voir émerger une corruption, contrairement à ce qu'il y a pu avoir au cours des précédentes années où là on pouvait où il y avait une vraie compétition entre les différentes villes. Donc on est d'accord que il y a quand même aucune raison pour qu'on trouve quelque chose sur ce niveau-là.
Et ben voilà, ça nous fait une bonne nouvelle.
Exactement.
Puis on a attribué les jeux, on les a donnés à la France et à Los Angeles, donc le problème se posait plus.
J'ai retrouvé l'odeur des pelouses sportives où tombe la sueur des athlètes complets, clair dimanche aux couleurs de maillots vert olive. C'est dans ton souvenir que mon cœur se complaît. J'ai senti sur ma joue hésiter.
Merci beaucoup à Anton Rouget qui est avec nous, journaliste à Mediapart. Un grand merci également à Armand Rondinger, à vous Carole Gomez. On mettra les références de vos ouvrages sur la page de Culture Monde. Et comme on entend là à l'instant Charles Tranel, les pelouses sportives, je propose d'en profiter encore un tout petit peu. Merci infiniment tous les deux.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Vous perchez-vous garçons qui sautez à la perche dans les stades du bois sur les rives du ciel. Entrez avant la nuit, vos parents vous recherchent, mais gardez de l'azur les élans essentiels.
On poursuivra demain notre série consacrée au sport et on parlera de la Russie. 11h53 minutes, le temps de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et un article paru sur le site Project Syndicate a retenu votre attention. Son titre, Pourquoi la morale compte en politique étrangère?
Comme j'annonçais à l'une de mes amies que je venais de terminer un livre consacré à la morale en politique étrangère, je me suis attiré la réponse suivante. Eh bien, ce doit être un livre avec très peu de pages. C'est ainsi que Joseph Nye commence l'article en question, un article dans lequel il présente son nouvel ouvrage qui s'appelle Do Moral Matters? Est-ce que la morale importe? Et le sous-titre c'est From Franklin Delano Roosevelt to Donald Trump. Ça, j'ai pas besoin de traduire. Joseph Nye est l'un des grands spécialistes contemporains de l'étude des relations internationales, une discipline qu'il enseigne à la Kennedy School of Government de l'université de Harvard. Ce n'est pas un intellectuel de tour d'ivoire, mais un homme d'expérience. Lié au Parti démocrate, il a occupé d'importantes fonctions dans les administrations Jimmy Carter et Bill Clinton. Et il était donné comme le conseiller à la sécurité nationale de John Kerry, si celui-ci n'avait pas été battu, comme on s'en souvient, par George W. Bush en 2004. Alors on peut comprendre la réaction de scepticisme de son ami, parce qu'a priori, tout oppose l'éthique discipline normative destinée à poser des règles de comportement à partir d'une définition des valeurs, de l'étude purement descriptive des relations internationales. En outre, une certaine vision, on dira machiavélienne ou encore westphalienne, des relations entre États, tend à considérer ceci comme des monstres froids n'ayant d'autre horizon que leurs seuls intérêts. Alors ces théories peuvent éventuellement viser l'état de paix par l'équilibre entre les puissances. Elles doivent rappeler que les intérêts mondiaux comme le climat, les migrations ou le commerce ne sont pas sans incidence sur les intérêts nationaux. Mais elles font très généralement l'impasse sur la dimension éthique de la conduite des affaires extérieures d'un État. La science de la puissance et de son exercice et la philosophie de l'action ne font pas bon ménage. Il y a des exceptions. Le philosophe américain Michael Walzer a étudié dans un livre devenu fameux, Guerres justes et guerres injustes, guerres justes et injustes, les conditions politiques dans lesquelles il est légitime de faire la guerre et les limites que doit respecter une puissance belligérante lorsqu'elle a été amenée à entrer en conflit armé. Mais l'ambition de Joseph Nye est tout autre. Il analyse la question du point de vue de l'historien. Et la manière qu'il a étudiée dans son livre est très concrète. Quelles sont les valeurs et les idéaux qui ont influencé les présidents américains dans l'exercice de leurs responsabilités internationales? Le jugement moral doit porter sur trois niveaux, écrit-il. Celui des intentions, celui des conséquences effectives de l'action et celui des moyens qui auront été utilisés pour atteindre les objectifs fixés.
Et Brice, les présidents américains ont eu tendance à invoquer de grands idéaux tels que le devoir de protéger ou les droits de l'homme pour la défense assez cynique de leurs intérêts.
Oui, parce que les Américains, rappelle Joseph Nye, ne peuvent s'empêcher de porter des jugements moraux sur tout. Les États-Unis se pensent comme porteurs de responsabilités internationales particulières. N'oublions pas que l'intention des pères fondateurs était de fonder une cité vertueuse, débarrassée de la corruption et de la dépravation de la vieille Europe. Et Nye rapporte au passage le propos significatif d'un responsable de la diplomatie française, qui lui aurait dit, je cite, « Je définis le bien comme ce qui sert les intérêts de la France, les questions morales n'ont pas d'importance. » Il semblait ne pas avoir conscience, commente Nye, que son affirmation comporte elle-même un jugement moral. En outre, c'est une tautologie, dit-il, le job d'un leader, c'est d'œuvrer au mieux dans l'intérêt de la collectivité dont il a la charge, so what? La question qui compte, celle qui importe vraiment, poursuit Nye, c'est de savoir, je cite, comment les dirigeants choisissent de définir, en diverses circonstances, cet intérêt collectif. Et comment ils la font valoir. Comme on pouvait s'y attendre, il s'attaque à la politique étrangère de Donald Trump, et on ne s'étonnera pas qu'un homme qui, lorsqu'il faisait des affaires, se moquait de l'idée libérale selon laquelle un accord entre partis ne puisse ne faire que des gagnants, win-win, que ce même homme néglige ouvertement les considérations morales lorsqu'il pense agir au mieux des intérêts américains. Il veut juste gagner. Mais comme l'ont fait remarquer de nombreux observateurs, Trump a une fâcheuse tendance à conditionner son action intérieure, extérieure, à ses intérêts de politique intérieure. Comme lorsqu'il a conditionné l'aide financière à l'Ukraine aux révélations que son président lui fournirait sur le comportement du fils d'un de ses adversaires politiques, Joe Biden. Contrairement à ses prédécesseurs, Trump se moque des droits de l'homme. Il l'a montré en continuant le business as usual avec les Saoudiens après l'assassinat du journaliste Kamal Khashoggi à Istanbul. Cependant, relève Joseph Nye, certains des comportements de Trump ne sont pas sans précédent dans l'histoire américaine. Comme on dit, Trump n'est pas une exception, mais il est extrême.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain, cher Brice.